Bonjour, donc, moi je suis Clément, je suis présidente de la fédération filière sage-femme. Donc je voulais remercier M. Pavilly d'avoir évoqué les filières qui ne sont pas universitaires, puisque vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a un certain nombre de formations qui n'ont pas la joie de passer par l'université, notamment celles qui passent par la région, où nous sommes un certain nombre de représentants aujourd'hui. Donc, quelle solution pour vous, puisqu'aujourd'hui on sélectionne des enseignants-chercheurs pour l'université, le CNU, quelle est la solution pour nous d'avoir ces experts en recherche, mais aussi en pédagogie? Est-ce qu'on doit être tous à l'université, ou est-ce que la solution, c'est de ne plus faire de la sélection seulement pour l'université, mais d'avoir une vision de l'enseignement supérieur plus globale, parce que l'enseignement supérieur, aujourd'hui, non, ce n'est pas seulement l'université pour l'ensemble des étudiants.
Alors là-dessus, puis c'est toutes les questions que vous avez posées.
Oui, mais alors, là, je comprends. Quelle est la question? Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Oui.
Donc, aujourd'hui, pour vous, quelle est la solution pour toucher l'ensemble des étudiants? Est-ce que tout le monde doit avoir accès à l'université, ou est-ce qu'il faut réformer la sélection des enseignants-chercheurs pour que l'ensemble des étudiants puissent avoir accès à des enseignements faits par des enseignants-chercheurs, mais pas via l'université?
Vous pensez donc... Vous pensez à quel...
Les chercheurs dans les instituts, je crois, comprendre la question.
Les écoles
de
sages-femmes, par exemple.
Pas seulement les sages-femmes.
Comme exemple, les sages-femmes, ou infirmiers, etc., ou kinés, ou des choses comme ça. Donc actuellement, ce sont des enseignants-chercheurs qui sont pas dans le même statut, qui n'ont pas le même statut que... Vous n'avez pas d'enseignants-chercheurs. Qui vous donne des cours?
Les
quoi?
Professionnels. Des professeurs.
Et donc vous réclamiez, vous seriez pour qu'il y ait des enseignants-chercheurs qui aient les mêmes critères que ceux qui sont à l'université, c'est ça?
Bien sûr.
Il faut réclamer à ce moment-là, en effet, je ne peux pas réclamer, en effet, que... C'est moi, je n'ai pas la réponse. Et voilà.
Non, mais
oui, je serais favorable à ça, bien sûr. Ça augmente, selon moi, ça augmenterait la qualité.
Le CNU est favorable à la création de nouvelles sections.
Bien sûr.
Bonsoir.
J'en profite. Oui, pourquoi pas. Très bien.
Oui.
Non, mais je ne connais pas le sujet, mais bon, là, est-ce que ça sera.
Tu mets le doigt dans un truc, là.
Je ne sais pas. Mais ce serait rattaché au CNU Santé.
Oui,
donc là c'est un peu particulier, hein. Justement, je voulais oui, c'est un peu particulier, CNU Santé, on est d'accord. Il ne fonctionne pas de la même manière. Moi, je ne peux pas parler au nom du CNU Santé, même si on a des relations et qu'il y a des sections de notes du CNU qui sont aussi santé, hein. Par exemple, les pharmaciens. Mais, donc, je voulais répondre sur la question... Comment? Donc... la réponse un peu la même pour votre collègue de l'ASUS qui est intervenu tout à l'heure pour le CNU Santé, c'est que, encore une fois, moi je ne suis pas le CNU Santé, et le recrutement, l'évaluation des enseignants-chercheurs, enfin des doctorants pour être qualifiés ne se fait pas du tout de la même manière. Enfin, là vous avez parlé d'un cours, et en plus il y a un processus, enfin je ne vais pas développer, le processus est totalement différent, il est même inversé, hein, c'est-à-dire que la personne est quasiment recrutée et ensuite quasiment le processus de qualification est secondaire au recrutement. Donc on peut entrer dans le détail, mais c'est pas pareil, hein. Donc, et la présentation est une présentation en effet orale, une espèce de cours qui n'existe pas dans le CNU. Ça pourrait être demandé pour le CNU, mais ce serait un bon moyen aussi de voir la capacité pédagogique de l'enseignant, mais dans le CNU normal, il n'existe pas, alors qu'il existe, c'est dans le CNU santé. La question que vous souleviez aussi, monsieur, sur le fait que c'était repris, sur le fait qu'on puisse aller sur Internet, je suis tout à fait d'accord, et on trouve des choses excellentes, et on le fait nous-mêmes aussi, sur Internet. Le problème, et vous le savez bien, vous savez bien, c'est que vous trouvez des choses intéressantes parce que vous êtes déjà formé, parce que vous avez déjà un regard qui permet de voir ce qui est intéressant et ce qui vaut rien. Parce que vous savez bien que sur Internet, si vous n'avez pas un minimum de formation et de regard justement construit, vous ne serez pas capable de voir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Enfin, moi, je fais des cours d'histoire de la génétique. Il y a des milliers de pages sur Internet sur l'histoire génétique, et je vous dirais que 80% ça vaut rien, absolument rien. Quand on présente Mendel, par exemple, comme le père de la génétique, que le fondateur de la génétique, déjà, c'est complètement... Vous arrêtez immédiatement, parce que Mendel n'a rien à voir avec la génétique. Que la génétique ait récupéré Mendel, c'est autre chose. Mendel lui-même, bon voilà, je finis, mais on peut, c'est un exemple. Donc on voit que c'est de qualité, que c'est pas de qualité, parce que vous êtes déjà fort, vous avez déjà un regard. Enfin, c'est quasiment évident. Bon, quant à la question, parce que comme on a plein de choses à dire, du coup on oublie, on met de côté, et puis on finit par oublier, par ne pas avancer profondément. Donc, on a dit à plusieurs reprises, et c'est tout à fait juste, que les choses changeaient extrêmement vite. Hein. Et qu'on allait voir disparaître 50% des métiers, etc. Moi, ça m'amène à défendre, au contraire, qu'il y ait... Parce qu'il y a ce point de vue-là, hein, qui peut apparaître, ce qui n'est pas le cas, en contradiction avec un autre point de vue sur l'employabilité, qui est de dire qu'il faut répondre quasiment, très précisément, à la demande des employeurs. Donc, et on voit bien que les employeurs, ils ont une demande qui correspond à un moment très précis, à une économie très précise, à un marché très précis, qui peut être totalement bouleversé dans 5 ans. Donc on voit bien que quand on parle d'employabilité, il y a un discours qui peut être contradictoire. Hein. Donc c'est pas simple de répondre aux deux éléments. Hein. Parce qu'on veut bien que quelqu'un soit employable pendant 5 ans, mais on aimerait bien qu'il soit employable jusqu'à la fin de sa vie. Et pour qu'il soit employable à la fin de sa vie, il y a, à mon avis, la défense, justement, des capacités de raisonnement, de l'aspect purement universitaire, purement académique, hein, cette fois-ci, et beaucoup moins directement lié au monde du travail. Voilà.
Est-ce que ça suffit des réactions à peut-être une dernière salle d'intervention
au monde du travail, je pense que
après, sur la suite.
Une des questions, c'est effectivement, on ne veut pas répondre instantanément au marché du travail, puisque de toute manière, il évolue. Mais en même temps, est-ce qu'il y a des choses qui sont suffisamment transverses qui sont à la fois nécessaires pour le monde du travail d'aujourd'hui et de demain? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des différentes formes d'intelligence, par exemple. Je vais faire un clin d'œil à la maïeutique, si vous me permettez, mais plutôt sur le côté socratique. Hein, parce que vous savez que le père et sa maman, et voilà, vous connaissez bien l'histoire de Socrate. Au niveau socratique, par exemple, Socrate était déjà à évidemment inciter les gens à se poser des questions, mais également ce qu'il disait, c'est qu'il avait un regard critique sur les technologies de son temps. Donc effectivement, sur Internet, on trouve le meilleur et le pire. Les langues d'Ésope à l'époque, c'était déjà le meilleur et le pire. On peut dire le meilleur et le pire avec la parole. Et Socrate disait que le risque de les technologies de son temps, qui était l'écrit et le dessin, c'est que quand on écrit, on ne sait pas qui va nous lire, et quand on lit, on ne peut pas poser des questions à celui qui a écrit. D'accord ? Et donc, une des difficultés des technologies qui sont apparues depuis, c'est ce manque d'interaction. Et donc, l'une des spécificités, à mon avis, l'une des valeurs ajoutées de ce qu'est l'université, c'est la capacité à interagir. Mais c'est vrai que l'amphi ne s'y prête pas très bien. D'accord ? Donc, capacité à transmettre de la connaissance, ça peut être numérisé. Capacité à débattre, à critiquer, à questionner, ça a besoin d'une interaction. Et la question, c'est, il faut arriver à former les enseignants à cette capacité à être des maïeuticiens, si je puis me permettre pour nos amis sages-femmes. On a besoin de les former à se questionner et à faire naître les idées, à accompagner ça. Et je pense que la maïeutique vue par les sages-femmes a plus progressé depuis la maman de Socrate que la capacité à se questionner depuis. D'accord ? Et donc on a des technologies de l'information, mais on n'a pas tellement de technologies de la connaissance et encore moins des technologies de la sagesse. Vous connaissez peut-être ce poème de Thérèse Eliot qui disait « Où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance? Où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information ?» Et aujourd'hui, on est inondé par les données. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on reconstruit ça? Qu'est-ce que seraient les technologies socratiques, par exemple? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Comment est-ce qu'on pourrait les inventer? Comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à ça? Et l'université, quelque part, c'est une technologie socratique, c'est-à-dire que c'est un endroit qui donne naissance aux idées. Mais comment est-ce qu'on réinvente de nouvelles technologies socratiques à l'heure du numérique? C'est ça les questions qu'il faut qu'on arrive à se poser. Et je pense que vous êtes au moins aussi bien placés avec votre génération que ceux des générations précédentes pour penser ces questions. Et on a besoin tous ensemble de s'asseoir autour d'une table et d'y réfléchir. Donc je vous félicite d'avoir abordé ces questions.
Là-dessus, en fait, c'est finalement la question, c'est le rôle de l'enseignant-chercheur. Et si je remets le débat en place, c'est de dire quel doit être le rôle de l'enseignant-chercheur? Est-ce que ça doit être de dire une vérité en disant à l'étudiant « voici la réalité », je pense que ce n'est pas non plus votre vision, ou est-ce que c'est d'accompagner l'étudiant peut-être en le laissant échouer Parce que l'erreur est aussi une manière d'apprendre. Là-dessus, quelle est votre vision, justement, du rôle de l'ancien chercheur pour répondre à ces débats?
Moi, bon, j'en profite pour rajouter un truc que j'ai oublié tout à l'heure, c'est par, parce qu'il y a plein de points, c'est que les entreprises risquaient à un moment donné de faire appel à d'autres moyens de qualification. Alors, pour l'instant, c'est plutôt l'inverse qu'on voit, puisqu'il y a une critique inverse, c'est qu'on reproche aux entreprises de demander la qualification, ce qui est juste, ce qui est vraiment... l'association des jeunes doctorants, hein, et des jeunes chercheurs, enfin, il y a eux... Se battent aujourd'hui parce qu'ils ils trouvent scandaleux que les entreprises demandent la qualification. Donc c'est un peu contradictoire, c'est-à-dire que les entreprises considèrent que c'est nécessaire qu'il y ait une vérification. Donc ça pose problème, hein. On oublie, mais c'est, pourquoi, hein? Il y a quand même, c'est pas si simple la question de la qualification qui servira à rien. Bon. Ensuite, sur qu'est-ce que c'est qu'un enseignant-chercheur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit être? Ben, moi, si je m'appuie sur qu'est-ce que c'est que la science, qu'est-ce que c'est que l'esprit scientifique, académique, universitaire, c'est bien de construire ce regard, justement, qui appartient à une discipline particulière. C'est-à-dire construire un regard qui permette d'étudier les objets et de comprendre les phénomènes qui appartiennent, justement, au champ sur lequel on demande d'être compétent. D'ailleurs, former un biologiste végétal, c'est former quelqu'un qui acquiert la manière de penser, de voir, d'étudier, d'analyser, de poser des questions, de répondre à ces questions du biologiste végétal. C'est ça, former un enseignant-chercheur.
Oui, moi je répondrais très très clairement. Que doit être un enseignant-chercheur? Déjà, c'est dans son enseignement. Il y a une règle de base qu'on applique dans les universités, c'est s'assurer qu'il y a un bon adossement entre la recherche et la formation. Ça veut dire quoi? Il y a une grosse ambiguïté là-dessus. Et beaucoup d'enseignants-chercheurs peuvent se fourvoyer. Il ne s'agit pas d'enseigner sa recherche, et ça je pense que c'est important. Il s'agit de mettre en œuvre la méthodologie de la recherche dans une démarche pédagogique. C'est exactement ce que vous soulignez, c'est-à-dire qu'un chercheur, il se trompe tous les jours. On se trompe tous les jours, un chercheur par définition. On se trompe, on réessaye, et c'est comme ça qu'on construit un petit peu son chemin, qu'on construit sa connaissance. Donc il faut arriver à faire passer l'idée dans les universités que une bonne démarche pédagogique, c'est justement celle qui s'appuie sur une méthode de la recherche. Et c'est ça que ça veut dire l'adossement des formations à la recherche. Et ça, je pense que c'est absolument fondamental. Donc ça renvoie immédiatement, évidemment, aux questions qui ont été largement débattues aujourd'hui, je ne vais pas y revenir, mais sur les méthodes pédagogiques et comment on les met en œuvre, comment on les évalue, pas dans un sens d'évaluation normative, on est bien d'accord, mais dans un sens plutôt, entre guillemets, démarche qualité, comment on s'améliore en interagissant avec ceux qui reçoivent le message. Je pense que ça, c'est fondamental. Il me semble que cet enjeu est tout à fait à la portée des enseignants-chercheurs et donc des universités. Il y a une dizaine d'années, on a été confronté à un autre problème qui n'est pas totalement résolu, mais pour lequel on a énormément avancé. C'est celui dont on vient de parler, c'est-à-dire comment arriver à concilier une formation où on va donner des connaissances et en même temps on donne des compétences. C'est-à-dire comment rendre finalement un diplômé, entre guillemets, le mot n'est pas beau, mais il est bien adapté, employable, c'est-à-dire trouver un emploi tout de suite, tout en étant capable de continuer à évoluer. Je pense que grâce justement à cette force de la relation entre la recherche et la formation, on a été capable de le faire. Il suffit de regarder aujourd'hui dans nos universités, je suis désolé, hein, les taux d'insertion professionnelle et les taux de rémunération des jeunes. Je pense que ce défi-là, on l'a en partie gagné. Et quand vous faites des comparaisons avec d'autres institutions françaises qui font l'enseignement supérieur, eh bien vous verrez que les niveaux de réussite sont parfois meilleurs à l'université qu'ailleurs. Donc je pense que ça, c'est tout à fait à notre portée. C'est le message que je voudrais donner aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'il y a une dernière question très rapidement? Il nous reste, on va dire, disons 5 minutes avant un mot de conclusion. Voilà, qu'est-ce que peut-être un levier à débloquer en conclusion pour essayer de se donner des matières à réfléchir et pour proposer aussi, parce que c'est quand même l'idée de ce débat. Alors, je crois qu'il y a